Invité vom Dach.
Als Lützeburg vis-à-vis von der LGBTIQ-Plus-Community manner tolerant, wie es sich gött. Darüber hat Christian Claire Göst mit der Nada Negraoui, Psychologin und Koordinatrice vom Luxemburg Institute for LGBTIQ-Plus-Inclusion, kurz Lili, geschwärt, ein Institut, den am Kader von der Pride Week Rapport über Gewalt und Diskrimination gegenüber der Community publiziert hat.
Bonjour, Madame Negraoui.
Bonjour.
Alors, une des conclusions principales de votre rapport qui a été présenté cette semaine, c'est que les personnes LGBTIQ+ continuent à vivre dans la crainte et même dans le retrait de la société au Luxembourg. Est-ce qu'il faut donc constater qu'une personne LGBTIQ+ n'est toujours pas perçue comme tout autre membre de la société au Luxembourg?
Alors effectivement, les premier constat, en tout cas, que ces enquêtes ont pu documenter, c'est qu'on a des chiffres qui sont tout de même assez parlants. Par exemple, 7 personnes sur 10 déclarent éviter de se tenir la main dans les espaces publics au Luxembourg. Mais on a aussi, effectivement, tout un tas d'indicateurs qui nuancent, en tout cas, cette question de la manière dont vont être perçues les personnes LGBTIQ+ au Luxembourg. Et je dirais que ça va dépendre d'un ensemble de facteurs. On va dire qu'il y a certains espaces où vous allez être plus exposés à certaines discriminations ou violences, et notamment aussi, on va dire, votre origine sociale, votre possibilité aussi d'avoir certaines, par exemple, accès à des centres communautaires de protection ou pas. On a pu aussi remarquer que, par exemple, dans les espaces ruraux, l'exposition était plus forte. Donc oui, il y a effectivement le Luxembourg, en tout cas, c'est à nuancer sur cette question d'acceptation et d'inclusion, mais aussi ça va dépendre en fait des territoires et d'autres variables.
Il est beaucoup question de souffrance aussi, hein, de personnes donc qui vivent, enfin leur orientation sexuelle en cachette, en quelque sorte. C'est un constat qui soulève quand même des questions. Avez-vous été surpris malgré tout par ces résultats?
Oui. Oui, il y a, alors, je suis psychologue de formation, donc il y a toute une enquête aussi qualitative qui a été menée sur les questions du psychotraumatisme complexe, en fait. Quand des personnes vivent une identité qui est stigmatisée à la naissance, parfois dès leur famille, ils vont subir certaines violences, finalement, depuis la petite enfance. Et ce que j'ai remarqué à travers cette enquête, c'est que ces violences-là, qu'ils ont intériorisées comme étant quelque part légitimes vis-à-vis de leur corps, de leur identité, eh ben, elles vont trouver écho dans la société à différents endroits, en interaction avec les institutions notamment. Et c'est là où, finalement, cette souffrance, à défaut d'être minimisée par le collectif, par les institutions, elle peut être réactivée. D'où des souffrances qui persistent. Et effectivement, donc il y a une partie de l'enquête qui s'est évertuée aussi à s'intéresser à la santé mentale et physique. Et on voit que des personnes, par exemple, trans, par rapport à des personnes qui sont cis, vont avoir des indicateurs de santé plus négatifs que les autres. Donc ça montre aussi des taux de détresse psychologique plus importants sur certaines populations qui sont plus vulnérables et donc plus exposées aussi à des formes de violence répétées.
Et donc ça, c'est surtout lié à la réception ou au contact avec la société, avec la politique, aux droits qu'ils ont par rapport à d'autres personnes.
Exactement. En fait, c'est aussi, un des objectifs de cette enquête, c'était d'expliquer que finalement, le traumatisme, la violence, elle est aussi politique quelque part, elle est structurelle. Et les interactions avec des instances qui sont censées protéger, soutenir, effectivement, vous citez la justice, il y a la santé, il y a l'éducation avec les services sociaux ou l'école, et des espaces qui sont censés venir à des endroits, être des espaces de care, de soins, deviennent des espaces de répétition de violence.
Est-ce que vous avez
donc
des exemples?
On perd. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on perd la confiance. Par exemple, un chiffre qui est quand même intéressant, c'est qu'on a 96% des victimes qui ne portent pas plainte. Et derrière, dans les enquêtes qualitatives, les entretiens qui ont été menés, ce qui ressort, c'est que les interactions avec les instances, en fait, sont violentes aussi.
Donc on préfère cacher son orientation sexuelle pour ne pas faire face à des problèmes, disons.
Et en fait, c'est exactement son identité, son orientation sexuelle ou son identité de genre. C'est-à-dire que l'être humain, cognitivement, va faire un calcul de savoir est-ce que c'est plus coûteux d'aller déposer plainte ou de ne pas aller. Et dans ce coup, finalement, l'exposition à un risque fait que la personne ne va pas y aller. Et derrière, on perd en fait aussi en visibilité, parce que derrière, des plaintes, c'est des chiffres que la justice ensuite, elle peut utiliser pour conseiller aussi aux politiques qui peuvent derrière recadrer. Là, au Luxembourg, actuellement, au niveau de ces chiffres de la justice, on manque cruellement aussi.
Je reviens un peu à ce que vous venez de dire par rapport aux violences. Est-ce que vous parlez de violences physiques ou verbales ou les deux ?
Alors, on s'est intéressé à tout un tas de types de violences différentes. Et dedans, effectivement, on a les violences physiques, les violences sexuelles, les violences psychologiques. On s'est intéressé aussi aux violences en ligne. Et donc, tout ce qui va être cyberinsulte ou cybersexualisation. Donc, et on a aussi pris la question du temps, c'est-à-dire sur les 12 derniers mois et avant l'année.
Vous parlez, on a déjà abordé, de discrimination documentée, de psychotraumatisme complexe. Et pourtant, le Luxembourg et ses gouvernements récents ont toujours prôné la tolérance. Il y a aussi des avancées législatives qui ont eu lieu. On a le mariage pour tous, contrairement à d'autres pays. On aime bien se montrer progressiste en matière d'égalité des chances et tout. Est-ce que c'est un raisonnement fallacieux ?
Je dirais pas que c'est un raisonnement fallacieux, je dirais que on essaye de construire une nouvelle maison et qu'il faut aussi démarrer par la structure de la maison. La structure de la maison, c'est le législatif. Effectivement, qu'une société, pour qu'elle avance, il faut que les normes formelles changent. On est influencé par les normes sociales et la loi, c'est une des normes qui a beaucoup d'influence. Donc je dirais que c'est la première pierre à l'édifice, mais ça demande en fait que la maison continue d'être construite. Et je dirais que maintenant, l'étape d'après, c'est aussi de venir former, en tout cas d'avoir une volonté nationale de former les professionnels qui sont dans ces institutions pour qu'ils soient dans une position professionnelle du care, du soin. Et ça passe aussi par la déconstruction des stéréotypes. La soirée hier s'est passée dans un espace de restauration. Et c'était très intéressant d'avoir le public aussi de la restauration poser des questions. Une des questions, c'était de dire j'ai des préjugés, je m'en rends compte. Et derrière, ça met aussi parfois dans des formes de malaise pour interagir avec les personnes. Et je manque finalement de connaissances pour déconstruire mes propres stéréotypes.
Est-ce que j'ai bien compris que vous dites qu'il y a eu le mariage pour tous et ensuite on a un peu lâché l'affaire ?
Oui, en quelque sorte. Et je dirais la politique, c'est nous aussi, c'est-à-dire c'est les citoyens. La politique, c'est la cité, donc c'est la vie des citoyens. Pour que la politique continue à construire cette maison dont je parlais, il faut aussi que les citoyens collectivement insufflent cette énergie pour que ça redescende pas. C'est pour ça aussi que cette enquête, c'est de rendre visible. Pour qu'un sujet devienne politique, pour qu'on s'en saisisse ensemble, il faut qu'on le mette dans l'espace public, en fait, qu'on en fasse un vrai sujet. Et donc, je dirais que effectivement, il y a une perte de vitesse. On a aussi un contexte quand même en politique nationale qui n'aide pas, en nationale, internationale même, je dirais, avec une montée aussi des extrêmes. Donc, il y a aussi toutes ces mobilisations citoyennes. Le Luxembourg, il y a quand même pas mal aussi d'autres associations qui œuvrent sur ces questions LGBTIQ+. Et c'est ça qui permet que l'énergie soit maintenue. Sinon, oui, inexorablement, ça a tendance à perdre de la vitesse.
Pour votre sondage et pour ce rapport, vous avez interrogé 301 personnes. Qui sont ces personnes ? Est-ce que c'est représentatif pour la communauté LGBTIQ+ ?
Oui. Alors, c'est une enquête qu'on ne peut pas dire représentative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas généraliser à l'échelle nationale parce qu'il y a aussi des biais, des limites. Par contre, malgré tout, l'échantillon, il est assez diversifié. Donc, on a une plutôt bonne répartition, donc les variables qui ont été demandées, c'est l'orientation sexuelle, le genre, donc on a l'ensemble des orientations, l'ensemble des identités de genre. On a aussi demandé la catégorie socio-professionnelle pour avoir un éventail quand même plutôt diversifié, la tranche d'âge aussi pour pouvoir représenter, le territoire d'habitation urbain, rural, périurbain, et la répartition par nationalité aussi. Donc Luxembourg, on a aussi l'Union européenne, Afrique, Moyen-Orient, Asie, Amérique du Sud. C'était l'intérêt, c'était d'aller chercher quand même une diversité de personnes, justement pour aller chercher dans la granularité, dans la finesse un peu, et essayer de comprendre les différentes formes de discrimination en fonction des profils.
Venons-en aux solutions à tous ces problèmes qui existent toujours. Vous avez abordé des domaines très, très particuliers, hein, l'éducation, la santé, les différences géographiques. Comment aborder cela? Est-ce que vous avez des pistes?
Alors, on a pensé une série de recommandations, effectivement. Donc, la première, c'est la formation des professionnels, notamment dans les domaines de la santé, l'éducation, police, justice, avec l'intégration obligatoire des modules de formation sur les réalités LGBTIQ+, dans des cursus initiaux et continus des professions. C'est aussi ça où on demande qu'il y ait une volonté nationale, c'est que ce soit inscrit directement dans les cursus de formation, et des programmes spécifiques aussi sur les enjeux du psychotraumatisme, du stress minoritaire, hein, qui est un stress particulier, et le soutien aux structures communautaires, en tout cas pour co-animer ces formations, c'est important. On le sait, la littérature scientifique l'a démontré, une mauvaise formation peut faire plus de stigmatisation. Donc derrière, c'est important aussi de co-construire avec des personnes concernées et avec une expertise le contenu de ces formations. Parce que former, c'est aussi rendre les institutions capables de protéger. La seconde recommandation, c'est l'accès aux droits et la visibilité dans l'espace public. Donc comme je disais, d'en faire un sujet, c'est le rendre visible. Donc c'est de créer ou de consolider des campagnes nationales de visibilité dans les lieux publics, les transports, les services publics. Promouvoir aussi des initiatives locales et notamment par exemple dans les communes rurales où on a vu que c'était un facteur de surexposition à des violences et des discriminations. Et aussi un engagement clair des institutions à s'opposer aux discours haineux parce que, alors l'enquête c'est 3 enquêtes, une des enquêtes c'était un espace libre de parole et énormément de personnes, on a eu plus de 50 témoignages qui s'en sont saisis suite à la pétition, qui a été vécue aussi comme un peu un acte de trahison des institutions.
Et vous avez parlé de l'éducation, des formations pour les personnes qui sont déjà un peu plus âgées, mais qu'en est-il des enfants, des plus jeunes de l'école fondamentale, des lycées? Comment aborder le sujet ou sensibiliser dans ce domaine-là?
Ça passe quand on parlait justement de la question de la formation des enseignants. C'est dans le parcours de formation des enseignants déjà intégrer ces questions-là qui ne le sont pas du tout. Ensuite, là, on a une enquête, en tout cas, on est en train de construire qui devrait démarrer à la rentrée, spécialement sur les écoles, pour essayer justement d'avoir de mesurer un peu, de faire un état des lieux sur le territoire et de voir après des mesures concrètes. Il y a des pistes, des projets qui sont pensés, notamment de construire avec les enseignants des contenus qui leur permettent d'aborder ces questions d'identité avec leurs élèves. Parce qu'on a aussi beaucoup d'enseignants qui remontent le fait qu'ils ne savent pas comment aborder ces questions et c'est pas évident. Donc il y a aussi effectivement la question de la jeunesse, mais qui est un sujet qui demande aussi qu'on s'entraide, enfin qu'on le traite spécifiquement.
Est-ce que vous avez déjà soumis votre rapport aux responsables politiques? Je pense avant tout à la ministre Yuriko Backes. Et quel a été le retour?
Pour l'instant, on a été présent hier Madame Siebenhauer, qui est la responsable de l'Observatoire des discriminations du MEGA. Donc ça leur a été transmis. Pour l'instant, on n'a pas encore de retour suite au rapport.
Et vous êtes confiante que vous allez être écoutée?
J'espère, oui. Après, jusqu'à présent, on a plutôt été soutenus dans l'initiative. Le ministère, il s'est montré intéressé. Donc je pense que c'est plutôt bien parti pour qu'il y ait une suite à ça, oui, et que ce soit entendu.
Madame Negraoui, coordinatrice du Luxembourg Institute for LGBTIQ+ Inclusion, merci beaucoup pour cet entretien.
Merci à vous pour votre intérêt.
Christian Clair huet durch den Interview gefeiert. An lo gleich schwätzen wir über den iPad an de Lycée, in dem sing Nutzung von der nächsten Rentrée un angeschränkt ist.